Ce matin, je veux parler de l'amour de Dieu. Je veux parler et je me garde ce matin. Je me garde parce que c'est mon anniversaire, fait que j'ai le droit. Alors, oui, c'est ça. Et je me fais un cadeau. Je me fais un cadeau, celui de vous partager cette idée-là d'être en relation avec Jésus, mais non pas seulement en relation, dans une relation passionnée, d'être passionné pour Jésus. Et ça, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Alors, c'est un privilège pour moi parce que je considère que cette idée-là d'être aimé de Dieu et aimer Dieu, c'est fondamental, vraiment fondamental à toute relation et particulièrement à notre relation avec le Seigneur. L'amour est ce qui nous a attirés. L'amour est ce qui nous maintient dans cette relation-là. Et l'amour est l'expression naturelle de notre reconnaissance envers notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous a tant aimés. Amen. Si on est aimé de cette façon-là, croyez-moi, c'est normal d'aimer passionnément. Pas d'aimer avec un... D'aimer pour vrai. Amen? Vous avez déjà aimé? Ouais. Pas sûr, ouais. Tu sais, quand on prend une pétale de fleur, là, ben une fleur, là, puis qu'on est obligé de mettre les pétales pour savoir si on aime pour vrai, là, c'est pas bon, ça, hein? Je l'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas pantoute. Puis là, quand on arrive à la dernière pétale, que finalement, c'était pas beaucoup, on prend une autre fleur, un peu, beaucoup. Non. Ben non. On veut aimer Jésus de tout notre cœur. Amen. Et même les Beatles le disaient, hein? All we need is love. Ce qu'on a besoin le plus, c'est de l'amour. Et ça tombe bien, parce que c'est ce que Jésus est. Il y a une différence entre offrir de l'amour à quelqu'un et être amour. Quand Dieu est là, quand Jésus, on considère que non seulement il y a de l'amour à donner, comme s'il se met un peu à gauche, à droite pour donner un petit peu d'amour par-ci, un petit peu d'amour par-là, on oublie qu'il y a quelque chose d'encore plus fondamental, c'est que Jésus, dans sa personne même, il est amour. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans nos cœurs. Je veux vous partager un passage dans 1 Jean. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans 1 Jean, le chapitre 4. On va lire quelques versets. Et on veut réfléchir à ça, cette idée de l'amour de Dieu, d'être en relation, parce que... Au courant de l'été, notre série, c'est Jésus et moi. Et on veut vraiment que cet été puisse être un moment, une occasion pour chacun d'entre nous d'être pleinement en relation avec Jésus-Christ. D'être pleinement en relation avec lui, de développer cette relation-là qui est si précieuse. Et on commence avec cette idée de l'amour, d'aimer passionnément, passionnément en Jésus. Et on va commencer avec ce texte-là. Et je sais que les prochaines semaines, vous allez être vraiment bénis également. Alors, ça va comme suit au verset 9. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés en premier, hein? Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » On passe quelques versets, on s'en va au verset 16. « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Dieu est amour. Hein, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas juste qu'il y a de l'amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Répète ça après moi ce matin. Il n'y a pas de peur dans l'amour. On le répète encore une fois. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous... nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Il y a parfois, dans notre jargon évangélique, on va dire, hey, moi j'ai aimé Dieu, puis j'ai été sauvé, puis... Il y a des fois, on a l'impression, en entendant les gens, que c'est comme ils ont aimé Dieu en premier, puis après ça, Dieu les a aimés. Mauvaise réponse. Dieu nous a tellement aimés que nous, on peut l'aimer en retour. C'est toujours Dieu qui aime en premier. Ça commence toujours par Dieu. Ça commence toujours par Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est bien d'aimer Jésus? Oui! Mais ne pensons pas que notre amour pour lui fait en sorte qu'il nous aime. Il nous aimait déjà avant. Il nous aimait parfaitement avant. Il nous a vraiment aimés le premier. Le premier. Et d'ailleurs, il nous a aimés le premier, puis on peut le voir à travers les disciples. Hein? Et même à travers le cheminement des uns et des autres, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un jour, on a ressenti que Dieu nous aimait. On a ressenti que Dieu à la croix, Jésus à la croix avait fait une œuvre qui, waouh, il y a de l'amour là-dedans. C'est bizarre, hein, parce qu'un moment d'une telle souffrance est un moment aussi rempli d'amour. Et même à tous égards, ça commence par de ressentir l'amour et ça mène à une décision. L'amour mène à une décision. L'amour de Dieu envers chacun de nous a mené à une décision de Jésus de venir sur la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. Et même lorsque nous ressentons cet amour de Jésus envers nous, bien, ça nous pousse à prendre une décision de le suivre, de l'aimer et de marcher dans son chemin aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Ça commence par l'amour et ça mène à une décision et non pas le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas « Ah, je prends une décision puis là maintenant je vais aimer Jésus ». Non, non, t'aimes Jésus, tu prends une décision. Oui? Jésus nous a tellement aimés, il a pris la décision de venir sur la terre. On ressent son amour, on s'engage pour lui. Amen. OK, vous êtes là, c'est bon. Les premiers disciples, rapidement. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode quand Nathanaël est en dessous d'un figuier, puis là, à un moment donné, Jésus le rencontre, puis il dit « Hey, je te connaissais, je t'ai vu sous le figuier. » Puis là, la réaction de Nathanaël, c'est vraiment « Hey! » Je vais te suivre. C'est comme s'il a ressenti qu'il était quelqu'un. Il a ressenti que Jésus l'aimait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné pour le suivre. Les trois pêcheurs, là, ceux qui pêchaient le poisson, là, t'sais, Pierre, Jean, André, ils se ramassent dans un bateau. Ils n'ont rien pêché de la nuit. Jésus leur dit, « Hey, jetez vos filets. On a fait ça toute la nuit. » Il dit, « Faites-le pareil. » Ils jettent, et là, il y a toute une espèce de banc de poissons qui passe par là, hein, par hasard, évidemment. Mais finalement, ce qui se passe, c'est qu'il va dire, ils vont faire cette pêche-là, ils capotent, ils comprennent pas à quel point il peut y avoir du poisson-là. Et finalement, il va dire, je vais vous faire pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qui se passe? Les trois disciples abandonnent tout et suivent Jésus. Ils ressentent cet amour-là qui les mène à une décision. Et moi, je veux nous encourager à réfléchir, parce que certains ici sont peut-être là depuis 40 ans et d'autres sont peut-être là depuis une semaine. De réaliser à quel point cet amour-là que Jésus nous a aimé en premier nous pousse à prendre une décision et à avancer avec lui. C'est une réponse à son amour, c'est une réponse à son appel, un peu comme ses disciples-là. Il nous a aimé le premier et voici ce qui vient par la suite. C'est-à-dire que le plus grand des commandements va dire la chose suivante, et on peut le lire dans Marc 12, on peut le lire dans l'Ancien Testament également, on peut le lire dans différents évangiles. J'ai pris Marc 12, mais vous pouvez l'entendre et le lire à plein d'autres occasions. Dans Marc 12, versets 29 à 30, ça va dire ceci. Jésus répondit à la question « Quel est le plus grand commandement? » Voici le premier. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est une concentration, hein? C'est tout est aligné. C'est pas juste une partie ou pas l'autre, c'est vraiment tout est aligné. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et honnêtement, il y a juste une personne qui peut se sentir aimée, qui peut aimer comme ça. Il y a juste une personne qui comprend l'amour de Jésus qui peut répondre à ce commandement-là de façon bien imparfaite. Hein? C'est-à-dire qu'on peut essayer d'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Il y a des fois, ça, tout n'est pas aligné, hein? Je ne suis pas le seul comme ça? Ça va? Ouais? Mais c'est notre cœur, on veut être là. Et parfois, on essaye de... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre aimer Dieu de tout notre cœur ou de toute notre âme? Quelle est la distinction entre les deux? C'est quoi la différence entre l'âme et la pensée? Puis là, on pourrait faire un grand exposé philosophico-whatever, là. Mais en même temps, là, ce passage-là, ce qu'il est en train de dire, c'est pas d'essayer de catégoriser 5 catégories d'amour pour dire, hey, oh, aujourd'hui, tu aimes avec 3 des 4, alors repente. Non, c'est pas ça, pas en tout. En fait, si vous regardez ce passage-là, vous comprenez très bien que c'est comme, avec tout ce que j'ai, je t'aime. Aime le Seigneur avec tout ce que t'as. Parce que finalement, si on dit de tout notre cœur, dans la pensée de l'époque, le cœur, c'était le siège du physique, du spirituel et du mental. C'était comme le siège social. Dans notre société nord-américaine, on a fait du cerveau le siège social. C'est pas toujours mieux. En tout cas. Mais c'était quand même ça. Alors, ça s'entremêle tout ça. C'est pas juste 4 éléments différents. Ça s'entremêle, mais au final, c'est... Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu penses, avec toute ton énergie? Tu sais, c'est un ensemble. Et je peux même faire le lien avec le mariage. Hein? Parce que hein, on veut s'aimer hein, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. On veut aimer l'autre, hein? Ouais? Ouais, vous voulez grandir dans l'amour? Ouais? OK, pour ceux qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas, prenez des notes, OK? Imaginez un mariage... Ou est-ce que, je ne sais pas moi, l'aspect physique est là, il y a une complicité sexuelle, mais rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas? Imaï, ça ne parle plus, hein? Le pasteur a parlé de sexe. Je vous l'avais dit, c'est ma fête, je fais ce que je veux. Puis même chose, on peut être connecté émotionnellement, relationnellement, ça peut bien aller, mais un mariage sans intimité, ça ne marche pas non plus! Il faut que ça soit aligné. C'est-à-dire qu'un mariage qui progresse, c'est un mariage dans lequel chacun n'est pas 50-50, chacun est 100% plus 100%, ça fait 100%. 100% plus 100%, ça donne 100%. Et c'est comme ça qu'on veut grandir. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vécu des choses pas faciles dans leur mariage, mais vous aurez remarqué qu'il y avait un désalignement à ce niveau-là, c'est certain. Une déconnexion à un ou l'autre de ces aspects-là qui fait en sorte que ça a déraillé, puis ça amène toutes sortes de conséquences et c'est vraiment triste. Je ne suis pas en train de dire que toutes les couples sont pleinement alignées parfaitement, mais ce qu'on veut pour nos couples, c'est justement que chacun soit 100% pour qu'ensemble, on soit à 100%. C'est la même chose avec le Seigneur. On ne peut pas dire, « Ah, ben moi, je veux t'aimer de tout mon cœur, fait que moi, je veux avoir le sentiment d'amour, mais mes pensées, pas grave. J'ai pas d'énergie, tant pis pour Dieu. » Non, vous comprenez, on veut être de ceux que c'est aligné. On veut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Je pourrais aller plus loin là-dedans, mais je referme la parenthèse. Mais en même temps, Jésus va utiliser l'image hein, de son église qui vient chercher son fiancé qui attend sa fiancée, tout ça. Ça fait partie de l'image dans le Nouveau Testament, et je n'ai pas le temps d'aller plus profondément à ce niveau-là, mais de faire un lien avec le mariage, ce n'est pas si farfelu que ça du tout quand on regarde le Nouveau Testament. Je vais dire ça comme ça. Et à quelque part, lorsqu'on regarde le texte de 1 Jean qu'on a lu tout à l'heure, à quel point Dieu nous a aimés le premier, à quel point Dieu s'est donné lui-même, à quel point... Il ne nous a pas juste aimés avec des paroles, mais il nous a aimés avec une action très concrète. Très concrète. Quand on regarde le grand commandement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, il y a des fois qu'on regarde la parole, puis on regarde nos vies, puis on dit, « Mais il y a un petit décalage ici. Il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. » Et moi, ce matin... Je veux pas taper sur la tête à personne, mais je veux vous partager cette idée-là d'avoir une passion renouvelée pour le Seigneur. Une passion renouvelée pour le Seigneur. Et peut-être que dans votre vie, il est arrivé toutes sortes de choses qui vous ont peut-être désaligné. C'est-à-dire que c'est pas tout en vous qui aime Dieu. Peut-être que justement, vous êtes fâché contre Dieu par quelque chose qui est arrivé, mais peut-être que ce matin, vous devriez réaliser que vous devriez bien plus être en maudit après le diable que d'être fâché contre Dieu. excusez le terme, si vous êtes nouveau, arrivant, vous dites être en maudit, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un Québécois, ça veut dire vraiment d'être fâché. Fait que ça n'a aucun rapport avec la malédiction, ça a juste rapport, c'est une expression pour dire qu'on est fâché. Mais plutôt qu'être fâché contre Dieu, et si on était fâché contre celui qui est l'auteur du mal, ça pourrait peut-être être une énergie mieux investie. Je vais dire ça comme ça. Mais à cause des circonstances, des fois, on se désaligne. Notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force, ça ne suit pas. Et moi, je veux nous encourager à avoir une passion renouvelée pour Jésus. Une vie qui est engagée pour aimer celui qui nous a aimés le premier. Et j'ai réfléchi cette semaine à qu'est-ce qui fait en sorte, pourquoi est-ce que ma passion pour le Seigneur a peut-être passé dans le tordeur, ou peut-être s'est amenuisée, ou peut-être n'est pas où est-ce que ça a déjà été. Et ça, je pense que ça peut avoir plusieurs sources. Puis il y a quelques éléments que je vais vous partager ce matin. Et l'objectif, ce n'est pas d'essayer de trouver, oh, il a trouvé la chose qui pour. Le but, c'est d'avoir une passion renouvelée pour Jésus, OK? Ça va? Fait qu'on ne fait pas de psychanalyse aujourd'hui, on est juste en train d'expliquer, de dire, comment est-ce que je peux peut-être comprendre que je suis désaligné pour que je puisse me réaligner avec cette idée-là d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et il y a un passage dans l'Écriture, dans Apocalypse, et c'est à une église que c'est adressé. Et dans Apocalypse 2, versets 3 à 5, ça va dire, « Oui, tu as de la persévérance. Oui, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et ici, on voit vraiment cette illustration-là, c'est comme une parole de la part du Seigneur pour cette église-là. Et on est capable de voir à travers ce qui est écrit ici, qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié ce premier amour-là. Ils ont oublié leur feu qui brûlait pour le Seigneur. Ils l'ont oublié. Il y a des gens qui oublient. Et Christian partageait ce matin, compte les bienfaits de Dieu, rappelle-toi-en, tourne-les sur tous les bords, tous les côtés. Il n'a pas dit ça, là, mais rappelle-toi, parce que c'est vraiment important de se rappeler d'où on vient. Eux, ils semblaient l'avoir oublié. Ils avaient oublié leur dévotion du passé. Et c'est pour ça qu'il va dire pratique tes premières œuvres. Hein. C'est comme s'ils avaient oublié cette dévotion, ils avaient oublié ce que le Seigneur leur mettait à cœur de faire. Alors qu'il avait découvert l'amour de Jésus, alors qu'il avait découvert cette grâce-là de Jésus-Christ. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il y a cette idée-là, peut-être qu'il était plongé dans la culpabilité. Et ça m'est déjà arrivé de jaser de ça avec des frères et des sœurs. Il y a tellement une culpabilité qui est là que finalement, on est tellement plongé dans la culpabilité qu'on oublie que Dieu nous aime pour vrai. On oublie qu'il y a un pardon pour vrai. Puis cette culpabilité nous ronge et littéralement nous désaligne de pouvoir aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Parfois, c'est de la négligence. Hein? Souviens-toi, pratique tes premières œuvres. Et cette idée-là de perdre son premier amour, ici, c'est pas comme... « Hey, tu l'as perdu en faisant tes boîtes de déménagement, tu ne sais pas il est où. » Puis là, fouille dans les boîtes. Ce n'est pas quelque chose que tu perds pour la vie. C'est quelque chose à laquelle Dieu t'appelle à revenir. Le but, ce n'est pas d'accuser, de dire « Hey, tu l'as perdu à travers les années. » Non, le but, c'est « Reviens à tes premières œuvres. Reviens à ce premier amour-là. Reviens avec les yeux pétillants qui parlent de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. » Voyez un jeune couple là, qui se marie, là, vous voyez dans leurs yeux le pétillant, juste à parler de l'autre. Vous pourriez faire ça ce midi pendant le dîner, là, parler à votre épouse avec des yeux pétillants, parler avec votre époux avec des yeux pétillants dans votre prochain temps de prière, de parler avec des yeux pétillants à votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prenez un café avec Jésus, ça vous est déjà arrivé, ça? Prenez un café, vous êtes tout seul à la table, vous parlez à Jésus, vous prenez votre café. Pourquoi pas? Si on est en relation avec Jésus, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être à genoux, les mains comme ça, les yeux fermés pour parler à notre papa dans le ciel? Prenez un café avec Jésus. Et pourquoi pas des yeux pétillants en parlant à Jésus? On va dire ça comme ça. Alors, l'idée du premier amour, c'est pas juste de taper sa tête, c'est de dire, « Hey, on peut le retrouver. Ça se retrouve, ça. Ça se retrouve. » Et il y a des fois dans ma vie où j'ai eu besoin de revenir à mon premier amour. Parfois, il y avait l'usure du temps, de l'habitude. Des fois, il y avait des situations qui ne faisaient pas mon affaire, puis ça... Ça vous est arrivé, ça? Puis après ça, tu as besoin de dire, hey, « Attends un peu, là. » J'ai l'habitude de dire ça avec mon épouse, là. Il faut que je change de mindset, là. On se dit ça des fois. C'est comme, on est d'une pensée, on s'en va d'une direction, puis là, on réalise que, hey, ce mindset-là, cette façon de penser-là, elle va m'amener vraiment pas à bonne place. Je décide de changer de mindset. Je retourne dans les bras de mon sauveur. Je retourne à la maison. Vous avez déjà vu ça, cette histoire-là du fils prodigue? Je retourne à la maison. Je retrouve ce premier amour-là. Et ça, il y a bien des fois que ça commence par une décision et les émotions suivent. Et non pas le contraire. Il y a des fois des gens qui pensent que retrouver son premier amour, bien, quand Jésus va me donner une touche d'amour après ça, l'émotion va me permettre de le suivre. Non. Si tu as déjà découvert l'amour de Dieu, si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, si tu le suis déjà, tu as beaucoup plus besoin d'une décision de revenir à ton premier amour. Puis oui, les émotions vont suivre et non pas le contraire. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Un manque de passion pour Dieu peut avoir plusieurs sources. Un, il y a cette idée-là de perdre son premier amour. Mais deux, il y a des fois des raisons que peut-être dans votre passé, vous avez eu un passé qui a manqué d'amour. Je vais dire ça comme ça. Un passé où vous n'avez pas expérimenté peut-être cet amour-là d'un père. Peut-être que votre père a été abusif. Puis votre idée d'avoir un père qui m'aime, ça fait vraiment bizarre. Ça sonne en décalage, ça sonne faux. Et parfois, il y a cette idée-là qu'on a de la misère à considérer que Dieu peut nous aimer. Et un des symptômes très, très fréquents lorsque ça arrive, c'est que vous avez toujours l'impression d'être l'enfant illégitime. D'être comme l'enfant adopté qui n'a pas droit à rien. Il y avait une missionnaire au Mozambique qui racontait cette histoire-là. Elle, son ministère, c'est d'accueillir vraiment des orphelins. Et les orphelins arrivent, sont accueillis, puis à quelque part, sont dans un milieu qu'ils n'ont jamais été. Et puis, pour eux, c'est comme, il y a un frigidaire dans la place. Puis, les enfants qui y vont, souvent, ils vont avoir cette espèce de, pas syndrome, mais cette espèce d'a priori qu'ils n'ont pas le droit de toucher au frigidaire parce qu'ils ne sont pas des vrais enfants de la maison. C'est comme s'ils n'appartiennent pas à la place, fait qu'ils n'osent pas. Et finalement, cette missionnaire-là a le besoin de les rassurer. T'es chez toi, si t'as soif, tu rouves et tu prends. Et c'est tout un... Comprenez qu'un enfant qui était abandonné, là, ça, il y a toutes sortes d'expériences, il y a toutes sortes de choses qui sont dans son cœur, dans sa tête. Mais il y a des fois des gens dans la vie chrétienne qui agissent comme s'ils étaient ces enfants-là, qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu parce que... Moi, je suis l'enfant illégitime, je ne suis pas... Les autres, oui, le pasteur, oui, mais pas moi. T'sais. Des fois, ça révèle un passé qui a peut-être manqué d'amour. Peut-être que vous n'avez jamais vu ce que ça veut dire aimer. Et lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on découvre pour la première fois l'amour de Jésus, il y a comme une effervescence qui est là, on sent aimer. C'est comme si, il y a comme, wow! Dieu m'aime! Et là, c'est extraordinaire. Et dans les premiers mois de la nouvelle naissance, souvent, il y a des gens qui vont vivre des choses. Là, toutes les fois que je demande quelque chose à Dieu, il me répond. Wow! Extraordinaire! Puis là, le temps passe. Et là, on ne s'en rend pas compte. Notre vieux pattern d'enfant illégitime ressort. Puis savez-vous ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce que j'ai observé en jasant avec des gens... C'est que plutôt que se rendre compte que c'est nos vieux patterns qui nous empêchent de s'approcher de Dieu, on dit « Dieu, pourquoi? » On dit « Pourquoi tu n'es plus là? » Non, non, c'est ton caractère d'orphelin qui t'empêche de même vivre cet amour-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travail, hein? On a besoin de réaliser des choses, on a besoin de grandir. Des fois, on a besoin d'un ministère de relations d'aide, comme celui qu'on a, pour réfléchir, pour comprendre nos patterns, pour justement éviter que notre passé, qui a peut-être manqué d'amour, nous empêche de nous approcher de Jésus aujourd'hui. Puis il y en a d'autres que ils ont été pleinement aimés, puis ça va bien, puis ils ont d'autres choses à gérer, puis ils ont d'autres choses à travailler. Passion renouvelée. Des fois, on a besoin de se comprendre nous-mêmes pour être en mesure d'aimer Dieu encore plus, d'être pleinement aligné. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Ouais, vous êtes avec moi? Vous étiez plus réactif quand je parlais de sexualité, là. C'est bon, je comprends. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit. Parfois, on a besoin, le manque de passion s'explique parce qu'on a considéré que d'aimer Dieu, c'était juste une question d'émotion. Et si on se sent bien, on aime Dieu. Puis si on se sent pas bien, on n'aime plus Dieu. Ben moi, je vais vous dire quelque chose, là. Si à toutes les fois que je me sens pas bien dans mon cœur, j'aime plus mon épouse, ça va pas bien. Est-ce qu'il faut avoir les papillons dans notre cœur à toutes les secondes de notre existence pour aimer notre épouse, comme Christ a aimé l'Église? Bah, OK, si vous êtes marié depuis moins que deux semaines, c'est correct. Pas de problème. C'est normal. Mais il y a parfois où est-ce que on met notre relation avec Dieu toute sur les émotions plutôt que sur une décision. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est pas l'amour qui entretient le mariage, mais c'est le mariage qui entretient l'amour. C'est-à-dire que c'est pas l'amour qui entretient l'engagement du mariage, mais c'est l'engagement l'un envers l'autre qui entretient cette flamme et cet amour-là. Des fois, comme pentecôtistes, on a tellement voulu vivre l'émotion qu'on a oublié que c'est une décision. On a oublié qu'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, il n'y aura jamais assez d'émotions pour que ça se produise tout seul. Jamais. L'amour, ça demeure une décision. Et honnêtement, comment je fais encore le parallèle, mais attendre l'émotion pour être passionné pour Dieu, c'est comme d'être aussi naïf que de croire que dans le mariage, la passion du premier mois va être suffisante pour entretenir les 50 prochaines années. Comme dire, hey, nous autres, on va faire un voyage dans le sud, là, comme nuit de noces, là, ça va être super. Puis si on achète le bon voyage puis qu'on vit la bonne expérience, c'est sûr que les 50 prochaines autres années, on va être passionnés l'un pour l'autre. Tous ceux qui sont mariés font comme. C'est si beau, mais à la fois si faux. Si beau, mais si faux. Mais c'est la décision d'aimer l'autre à chaque jour qui fait grandir cet amour-là. Vraiment, vraiment. C'est la même chose avec Dieu. C'est notre décision à chaque matin de se rappeler à quel point il nous a aimés le premier et qu'à quel point la seule réponse valable, c'est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Alors, je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager ce matin à développer ta passion pour le Seigneur. Vraiment, à développer ta passion pour le Seigneur. Et j'aimerais le dire de la façon suivante, et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Prends la décision de l'aimer de toute ta force. Prends la décision, pas juste « je vais attendre que ça vienne ». Prends la décision de l'aimer de toute ta force. Laisse-le renouveler tes pensées. Laisse-le renouveler peut-être le côté orphelin que tu ressens dans ton cœur. Laisse-le renouveler ces expériences du passé qui t'ont peut-être dit « t'es pas aimable, tu le mériteras jamais. Toi, oublie ça. » Vous avez peut-être entendu des paroles de mort comme ça. Laisse-le renouveler tes pensées et aligne ton âme avec la parole. Aligne ton âme avec qui Dieu est, avec ce qu'il déclare dans cette parole qui est remplie de sa vie. Qui est remplie de sa vie. J'aimerais vous partager ce que je considère être un des signes qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Puis c'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas la hauteur des bras dans la louange qui détermine si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça peut être un signe, mais ce n'est pas le signe du tout. Moi, dans ma vie, je me suis rendu compte, et j'ai vu ça autour de moi, que lorsqu'on est pleinement aimé, on devient meilleur. Lorsqu'on est aimé, on devient, ça nous rend meilleur. L'amour d'une épouse, là je parle pour moi, l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un ami, l'amour d'une amie, nous pousse à être meilleur, nous pousse à persévérer, nous pousse à continuer d'avancer. Et c'est exactement ce que l'amour de Christ envers toi produit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour moi, un des signes qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, c'est que ça nous amène à être vraiment meilleur que ce qu'on est ou ce qu'on était. Mais pour avancer dans cette direction-là, et on peut parler de sanctification pour utiliser d'autres termes plus style Église, les churchy words, là, tu sais, on peut parler de ça aussi. Mais lorsqu'on sait qu'on est pleinement aimé, là, comprenez-moi bien, lorsqu'on sait, pas juste qu'on file papillon, là, lorsqu'on sait qu'on est pleinement aimé, inévitablement, on devient meilleur. Inévitablement, on passe de gloire en gloire. Inévitablement, on veut se dépasser pour celui qui nous a tant aimés. Oh, inévitablement, on ne sauve pas de lui, mais on se rapproche de lui. Si vous êtes pleinement aimé, s'il y avait un de vos parents qui vous a pleinement aimé, vous avez toujours voulu être proche de lui. Pourquoi? Parce qu'il vous faisait du bien, parce qu'il vous amenait à être meilleur. Il vous poussait à pas abandonner, mais à continuer. Vous étiez toujours à côté de lui. Vous vouliez l'entendre, vous vouliez qu'il vous sert. Vous êtes devenu meilleur à cause de cet amour-là. Mais si on est pleinement aimé par le Seigneur, c'est exactement la même chose. On va vouloir être proche de lui. On va vouloir avancer. On va avoir le courage de continuer. On appelle ça progresser. On appelle ça avancer. On appelle ça parce que je suis pleinement aimé. Je vais être meilleur. Et je vais être meilleur. Je veux lui plaire. Je veux obéir. Je veux le suivre. Est-ce que tu es pleinement aimé par ton Sauveur? La réponse est oui. Est-ce que tu le sais? La réponse, ça t'appartient. C'est toi qui le sais. Je ne peux pas le répondre à ta place. Moi, je sais que Dieu t'aime parfaitement. Je sais que Dieu t'aime pleinement. Je sais que dans son amour, il y a tout ce que tu as besoin. Mais est-ce que tu es pleinement? Est-ce que tu considères que tu es pleinement aimé? J'aimerais suggérer que la réponse pourrait être: est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas aimé de toi pour toutes sortes de raisons que toi tu connais parfaitement, Seigneur éternel, je te prie qu'il puisse changer de mindset et recevoir cet amour. Parce que Seigneur, tu nous as aimés le premier. Toutes nos fautes, tous nos manquements, tous nos mauvais raisonnements ne t'ont pas empêché de mourir sur la croix pour nous. Alors Seigneur, je te prie qu'en ton nom, Seigneur, cette personne, ces personnes puissent savoir ce matin dans leur cœur, forte conviction, qu'ils sont pleinement aimés de toi qui es leur papa dans le ciel. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, je veux te prier ce matin que nous puissions chacun développer une passion pour toi, une passion pour toi, une relation qui n'est pas juste sur appel quand ça va mal, mais une relation vivante et vibrante avec notre Créateur, avec notre Papa dans le ciel. Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur, de ce que tu nous aimes tellement. Et je te prie même pour un baptême d'amour sur chacun ce matin. Un baptême d'amour, Seigneur, une conviction, Seigneur, qui nous mène et une réalisation de ton amour qui nous mène à prendre des décisions fermes envers toi, celle de t'aimer de toute notre force, celle de te laisser renouveler nos pensées, celle de laisser notre âme être imbibée par ta parole, celle de s'approcher de toi, Seigneur. Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs, que chacun d'entre nous et ensemble comme communauté, nous puissions être passionnés en toi, Jésus. Seigneur, tu bouges ce matin. Tu bénis, tu fortifies. Peut-être que quelqu'un est ici et peut-être ressent l'amour de Dieu pour une première fois. Mon frère, ma sœur, c'est normal. Mais je t'encourage ce matin ici. Peut-être que tu n'as jamais pris une décision de suivre Jésus. Tu n'as jamais pris cette décision de dire « Ma vie je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et c'est ce matin que ça se passe. Si c'est vous ce matin, alors que tous les yeux sont fermés, je veux juste inviter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus ce matin? Là où tu es, lève ta main. Amen. Amen. Je vois ta main, tu peux la baisser. Amen. Amen. Je vois votre main en haut. Tu peux la baisser. Amen. Je vois ta main, tu peux la baisser. Amen. Des gens qui prennent des décisions. Amen. Seigneur éternel, merci Seigneur pour ces personnes qui ressentent ton amour. Et merci surtout que cet amour-là qu'on ressent nous mène à une décision, celle de te suivre, parce que tu es le seul Dieu, tu es le seul Seigneur, tu es le seul qui mérite d'être suivi, tu es le seul qui mérite d'être adoré. Et Seigneur, ce matin, pour chacune de ces personnes-là qui te donne sa vie, Seigneur, je te prie que tu puisses les faire naître de nouveau, qu'ils puissent, Seigneur, prendre les bons choix, de te suivre, de te servir, de t'obéir. Seigneur éternel, sois avec eux. Alléluia, Jésus, en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir ces personnes qui ont pris cette décision ce matin?